C'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Style FM, votre radio du Nord-Vienne avec Alain Jeanne.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier régional, élu saveur de l'année 2018. Vos points de vente dans la Vienne sur langélis.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente dans la Vienne sur mariemorin.fr.
Merci de nous rejoindre pour Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Style FM, des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre ensemble maintenant. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro inédit de Chute, on écoute la télé qui va être chargé aujourd'hui avec une spéciale du film Lola vers la mer qui sort le 11 décembre au cinéma. Laurent Micheli, Benoît Magimel et Mia Bollard seront avec nous d'ici quelques toutes petites secondes. Dans nos coups de cœur télé du jour, on va parler de la série Prise au piège sur M6. Élodie Fontan sera notre invitée exceptionnelle. Julie Debona viendra également nous rendre visite. C'est la troisième héroïne du Bazar de la Charité, la série événement de TF1 qui sera avec nous. Nous ferons une spéciale Irresponsable également. La série revient pour sa troisième saison jeudi sur OCS. Un rendez-vous à ne pas manquer. On terminera l'émission avec Mathieu Sempéré, le ténor d'Estentor, qui viendra nous parler de ses concerts et de son album Engrenage Symphonique. Et on terminera l'émission en beauté avec Maëva Cook, notre Miss France 2018 qui part pour Miss Univers qui aura lieu à Atlanta le week-end prochain. Vous l'avez compris, c'est l'événement aujourd'hui encore une fois dans Chute, on écoute la télé. Alors c'est parti, on démarre tout de suite notre spécial Lola vers la mer.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et notre coup de cœur, eh bien, cette semaine est consacré au film Lola vers la mer de Laurent Micheli qui est justement avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, qui va être rejoint dans un instant par Benoît Magimel et Mia Bollars qui seront donc avec nous d'ici les quelques toutes petites minutes. Je sais que le planning est chargé, on est à quelques jours de la sortie du film. Laurent, Lola vers la mer, en quelques mots, comment on pourrait définir cette histoire ?
Eh bien, c'est l'histoire donc d'une jeune fille qui s'appelle Lola, qui a 18 ans, qui vit dans un foyer pour jeunes à Bruxelles, qui est à quelques moments de se faire opérer. Malheureusement, sa mère meurt et son père et elle sont obligés de se reconfronter après 2 ans de silence radio. Et ces deux personnes que a priori tout oppose vont être obligées de traverser une partie de la Belgique en voiture et toutes sortes de choses vont leur arriver, mais pas forcément ce qu'ils s'attendaient à vivre.
Évidemment, il va s'en suivre tout plein d'aventures. Comment vous avez eu l'idée de cette histoire, Laurent ?
J'avais envie de parler de la relation au père, de me replonger dans l'adolescence, dans une énergie un peu revancharde adolescente que j'ai ressentie moi-même. J'avais envie de me resservir de ça, de travailler sur les relations père-enfant. Et puis, j'avais aussi envie de parler de la transidentité, avec une espèce d'envie un peu politique d'amener ce sujet sur un grand écran et de porter comme une héroïne un premier rôle d'une jeune fille transgenre, une héroïne pleine de vie, en lutte, et tout ça en fait à travers une histoire la plus universelle possible.
Déjà le choix de Mia, ça n'a pas dû être évident. Forcément, je crois que vous avez fait un casting à travers tous les pays francophones pour arriver à trouver votre Lola. Ça n'a pas été évident.
Bah, c'est-à-dire que c'était un gros défi surtout. Moi, je voulais absolument travailler avec une jeune fille trans pour ce rôle parce que je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, il est temps de porter ces gens-là en haut de l'affiche, de montrer ces visages-là, ces corps-là qu'on n'a pas l'habitude de voir, voire qu'on cache. Et donc, je savais pas si j'allais trouver si facilement que ça. Je savais pas comment ça allait réagir. Donc, ouais, on a ouvert un casting dans toute la francophonie. Et puis, au fur et à mesure de rencontres, je me suis arrêté sur Mia parce que elle m'a très très fort touché, voire bouleversé dans sa capacité à provoquer des émotions, à être très généreuse. Et presque parfois sans pudeur et à la fois avec beaucoup d'élégance quoi dans la restitution des émotions, et c'était super important pour le rôle de Lola. Et puis pour le père, Benoît Magimel, en travaillant avec le directeur de casting, c'est pareil, j'avais pas d'idée préconçue, J'ai pas écrit pour des acteurs en particulier. Et voilà, moi, je cherchais quelqu'un qui soit à la fois cet être un peu dur, plein de testostérone et avec une grande fêlure non apparente, mais qui justement se révèle au fur et à mesure du film. Et en fait, lui, c'est quelqu'un qui est absolument capable de travailler là-dessus. C'est un grand acteur. Il a été aussi très généreux et bouleversant. Et puis, il a été très généreux avec Mia. Il l'a bien accompagné pendant le tournage. Je suis très content du duo qu'on a dans le film.
En tout cas, le rendu est magnifique. Et on va tout de suite écouter la bande-annonce, juste avant de se retrouver, puisque Mia et Benoît arrivent vers nous. On écoute tout de suite Lola vers la mer.
Comment ça va en ce moment?
Ça va. Le traitement me fait du bien. Je me sens mieux.
Pourquoi tu veux faire ça? Moi, j'ai eu un garçon, j'ai pas eu une fille.
De toute façon, que je fasse cette opération ou pas, ça changerait au fait que je suis déjà une femme. Faut juste l'accepter, c'est tout. Comment t'as pu me faire ça? Tu te rends compte que tu m'as fait rater l'enterrement de maman? Jamais tu pourras réparer ça.
Réparer quoi? T'as déjà tout cassé? Tu te ramènes ici habillé comme un traveau. Putain, parfois!
Tu vas la remettre sur ton petit meuble de merde?
Je vais l'emmener au bord de la mer dans sa maison d'enfance. C'est elle qui me l'avait demandé.
T'as pas fini tes conneries? Sors! Sors de là!
Je la laisserai pas!
Soit tu descends, soit on y va.
Allez, où?
À la mer.
Voilà, bande-annonce. Lola vers la mer, le film qu'il ne faut pas rater, mercredi dans les salles. Et on va accueillir justement l'héroïne de ce film, Mia Bollars, qui est avec nous. Bonjour Mia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et Benoît Magimel, qui nous fait l'amitié d'être avec nous pour la première fois dans Chute en écoute la télé. J'en suis très fier. Bonjour Benoît.
Moi aussi, je suis très heureux d'être parmi vous.
Mia, première question. On en parlait il y a quelques instants avec Laurent. Alors, j'ai pu voir le film, moi, bien avant tout le monde, au Festival du film francophone d'Angoulême en août dernier. Ça a été... pour moi, une belle claque et en même temps une découverte, parce que j'ai trouvé un personnage à la fois assez noir et à la fois tellement lumineux que là, on ne sait plus trop où on en est en fait avec ce personnage de Lola. Et c'est bien d'avoir pu transgresser entre ces deux-là, entre ces deux facettes-là de ce personnage. Donc voilà, c'était une belle surprise en tout cas de te découvrir.
Je pense que déjà la recherche du personnage s'est faite entre Laurent et moi-même. On a cherché une forme de symbiose pour trouver le personnage de façon la plus juste possible. Après, j'ai cherché à travailler sur moi, à essayer de me mettre aussi à la place de Lola dans ces situations, en faisant peut-être référence à des situations similaires que j'ai pu vivre, pour essayer de mettre en avant le personnage de Lola et non pas forcément ma propre identité. J'ai cherché à être la plus juste possible et la plus sincère avec ce qu'aurait pu être et ce qu'aurait pu vivre Lola dans ces événements en fait.
Bien, voilà un papa on a situé un petit peu l'histoire avec Laurent mais voilà un papa qui n'accepte pas évidemment ce qui est devenu son fils. Comment vous avez reçu Benoît ce scénario, cette histoire, comment vous avez réagi la première fois que vous l'avez vu?
J'ai simplement essayé de le tirer le plus vers moi possible en fait, simplement me poser les questions qu'un père pourrait se poser et surtout un père de cette génération, ma génération. Et pour moi, ce qui d'abord dominait en fait ce personnage, c'était cette paternité qu'il n'a pas pu avoir, ce refus en fait, on lui a refusé sa paternité depuis la naissance de cet enfant et c'est un deuil voilà qui est extrêmement douloureux à porter. Et c'est ce qui détermine la relation avec cet enfant aujourd'hui. Donc au moment où on les retrouve dans l'histoire, c'était sa souffrance en fait. Voilà, je trouve ça intéressant d'explorer cette facette-là. Peut-être que si l'amour qu'il avait donné à cet enfant avait été accepté, peut-être qu'il aurait été différent. Peut-être ça aurait été plus simple, plus facile. Mais voilà, en tout cas c'est des choses qui sont très ancrées et je trouvais que voilà c'était très universel, ça parlait à tout le monde. Et puis je me suis dit aussi qu'on pouvait dépasser à un moment donné l'histoire de l'identité, que c'est simplement un enfant et son père voilà qui se retrouvent, voilà qui ne peuvent pas fuir, c'est une confrontation. Voilà, je trouvais que c'était très bien écrit, voilà, c'est très juste. Et effectivement comme Mia, j'ai proposé à Laurent des préoccupations que j'aurais pu avoir. J'ai essayé de, comme je dis, de tirer les choses un peu vers moi et de faire des propositions en ce sens et d'être aussi peut-être encore plus violent dans les mots. Voilà, encore plus violent dans les propos qu'on peut avoir parce qu'il y a une douleur en fait du père. Voilà, qui est une plaie béante. Comme il le dit, voilà, il a jamais son père lui a jamais rien transmis et tout ce qu'il a essayé de transmettre à cet enfant, elle le lui a refusé. On peut pas s'en remettre, vous voyez. Tu m'as empêché d'être père, tu m'as interdit d'être père. J'ai voulu et on a essayé de donner tout l'amour possible et tu l'as refusé. Voilà. Donc il y a une incompréhension des deux côtés. Je pense qu'il y a une prise de conscience. À un moment donné, c'est pas une réconciliation. C'est pas, on répare pas une histoire de 20 ans en deux jours comme ça. Mais on, tout d'un coup, il y a une prise de conscience de la souffrance de l'un et de l'autre. Et de comprendre leur drame intime, en fait, leur drame personnel, ce qu'ils ont pu vivre chacun de leur côté, alors qu'il y a un refus au départ. Et voilà. Et donc ça ouvre vers des possibles, mais on répare en rien, simplement, voilà. On soulève encore d'autres questions et on comprend un peu la nature des souffrances. Mais on est face à quelqu'un d'extrêmement. Et puis, Mia est très belle, quoi. Je trouve qu'elle a. Elle a une présence à l'écran qui est extraordinaire.
Dans un instant, on va marquer une petite pause, 3 minutes. Laurent, on va y revenir aussi, bien sûr. Mia, Benoît, vous ne bougez pas, on revient.
Oui.
Ah bah voilà. Mia l'a dit, donc vous bougez pas. Dans 3 minutes, on est de retour. Dans Chut, on écoute la télé. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé. Revient dans un instant. À tout de suite.
Style FM, la radio de tous les styles musicaux.
Follow me to the place where the sun meets the moon, where all our differences fall away like stars from space, where rhythm and life are one and the same. Follow me into tomorrow, where all that exists is time and space, in the anticipation of a brand new day for us to sing, laugh, dance and play.
Du lever au coucher. Chez moi, Style FM, c'est toute la journée.
On est vraiment bien sans elle.
I just haven't met you yet.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et de retour dans Chute, on écoute la télé. C'est notre spécial Lola vers la mer. Alors Laurent, qui a réalisé ce très beau film, qui est avec nous, est-ce qu'il y a une volonté aussi de créer le dialogue ? Peut-être dans les familles qui peuvent être confrontées à ce genre de soucis, d'entente, de refus aussi de ce qui peut se passer. Est-ce que c'est vraiment une volonté aussi de créer le dialogue, Laurent, ce film ?
Ouais, d'ouvrir un débat aussi, de délier les langues. Je crois que y a beaucoup de choses autour de ces questions-là qu'on laisse un peu sous le tapis, quelque part, par manque de connaissances ou par colère ou par pudeur ou je sais pas très bien quoi. Mais je trouve que c'est bien de sortir un peu de ce côté trop étouffé et de tout à coup, à travers encore une fois cette histoire très universelle parce que de la famille et donc des émotions et des sentiments que tout un chacun traverse, d'arriver avec ce sujet complexe, compliqué, mais en essayant d'en parler d'une façon très la plus simple possible et voilà, on a parlé d'âpreté, oui il y a de l'âpreté, il y a de la violence, mais il y a aussi une espèce d'envie, de désir d'aller vers la lumière, d'aller vers une forme de libération quoi.
Merci beaucoup Laurent. Mia, on va y revenir un petit peu, il y a eu déjà quelques projections donc du coup en avant-première. Est-ce qu'il y a déjà des témoignages qui te sont arrivés, des témoignages de garçons ou de filles qui sont un peu dans la même situation que toi, qui t'ont un peu bouleversé par leur histoire aussi?
Je pense que ce film a déjà été fait aussi pour poser la question aux personnes qui sont concernées, mais aussi aux personnes qui ne sont pas concernées. Et donc, c'est vrai que le film a permis à ce que certaines personnes se reconnaissent un peu à travers Lola. J'ai déjà eu donc plusieurs témoignages de personnes, qu'elles soient genrées au féminin, au masculin, ou peut-être non genrées, qui sont quelquefois bouleversants parce que ce sont des histoires presque semblables à celles de Lola. Et je me dis, moi, en tant que Mia, j'ai eu la chance de vivre une histoire et un parcours plutôt bienveillant avec ma famille, et de me dire qu'il y a des personnes qui vivent une autre réalité avec
une acceptation plus évidente.
Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que ça remet en question aussi beaucoup de choses, de la chance que j'ai eue, etc., de naître dans ma famille quand même malgré tout. Donc voilà, il y a des témoignages et après j'essaye d'être à l'écoute et de répondre avec bienveillance et gentillesse, même si je peux pas répondre de la même façon à tout le monde.
Il y a un souvenir de ton âge particulier, d'une scène entre vous deux, Benoît, qui reste ou qui restera gravé, en tout cas dans votre carrière de comédien?
C'est plutôt un sentiment plus général. C'est-à-dire que non, je me suis... j'ai eu le sentiment parfois de faire un peu d'ingérence. Et ça m'était un peu mal à l'aise parfois, parce que je pense que parfois les réalisateurs ne connaissent pas aussi bien que l'acteur ce que c'est que d'être acteur, simplement. J'ai pu le remarquer avec des réalisateurs-acteurs qui ont des clés pour accompagner, donner des directions et trouver des clés pour libérer simplement certaines émotions et de pouvoir... ouais, c'est la première expérience de Mia et quand vous êtes autour d'une équipe et qu'on vous demande de parler de vous, enfin de parler d'une intimité, de l'intime, de se mettre à nu, pas forcément elle mais son personnage, il faut trouver une autre façon de travailler, voilà, il faut essayer d'élargir un peu. Et donc, lorsqu'il y avait l'action qui était lancée, j'avais demandé au réalisateur, à Laurent, de ne jamais couper et de me laisser réenclencher à chaque fois pour permettre à Mia d'un moment donné d'oublier un peu le décor, la présence autour de nous pour se libérer, quoi. Et je me souviens d'une fois où, dans une scène où je lui avais dit de travers un exercice de lâcher un peu des émotions, elle m'avait dit mais on va se moquer de moi autour. Elle avait peur que l'équipe se moque d'elle parce qu'elle devait avoir des émotions. Non, voilà, donc il y a des choses comme ça, mais ça a été très enrichissant pour moi en tant qu'acteur d'explorer encore de nouvelles façons de partager avec mes partenaires. J'ai envie qu'on... Le but c'était de faire un film, de faire le film le plus juste possible et d'être toujours dans la vision de ce que voulait le réalisateur. Mais donc parfois moi, j'ai eu le désir de dire les choses que finalement on n'ose jamais dire, quoi. D'employer des mots assez rugueux, assez durs, simplement ça.
Merci Benoît, merci Mia, merci Laurent d'avoir été avec nous. Le film Lola vers la mer sort le 11 décembre au cinéma. Vous allez passer certainement un très bon moment devant. On va se requitter avec un nouvel extrait de la bande-annonce. Et je vous dis à très bientôt les amis, merci.
Alors tu te fais appeler Lola maintenant?
Très classe.
Oh le con, putain. Je sais pas ce que tu veux prouver, mais tu viens avec moi, on s'en va.
Non, je suis bien ici, moi je bouge pas.
Tu me touches pas.
Ça suffit.
C'est mon fils, je fais ce que je veux. On sera jamais d'accord tous les deux. Je te demande une seule chose. On finisse ce qu'on est venu faire. On le fait pour elle.
Elle te manque?
Ouais, beaucoup.
Maman, avec toi j'ai toujours eu l'impression que tout était possible. Et qu'est-ce qui était important dans la vie? C'est ce qu'on croyait soi. Et pas ce que pensaient les autres.
Connard!
Aujourd'hui je sais qu'il y a d'autres choses qui se cachent derrière les apparences. Et ça, c'est grâce à toi.
nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on continue comme chaque semaine à parler du bazar de la charité. On va découvrir la suite, enfin sur TF1 cette semaine avec Julie Debona qui nous a rejoint. C'est bien, on a toutes les héroïnes. La semaine dernière, c'était Audrey. Et là, c'est vachement bien de vous avoir toutes comme ça pour parler de cette fiction événement. Bonjour Julie.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous une nouvelle fois. Tu es une habituée de l'émission. Et moi, je suis super heureux de t'avoir pour cette fiction, je crois, qui t'a beaucoup marqué et qui a été très importante pour toi.
Oui, oui, elle m'a marqué physiquement. Et
on a vu.
Et dans le cœur, émotionnellement aussi, c'est vraiment un rôle qui m'a meurtri et passionné.
Alors pour ceux qui n'ont pas vu éventuellement les quatre premiers épisodes, hein, on suit cet incendie que vous avez vu dans le premier épisode qui s'est déroulé en mai 1897 même pour être précis, au bazar de la charité, qui va voir le destin des trois héroïnes complètement bouleversées, bousculées. Et tu joues le rôle de Rose. Comment on pourrait définir Rose pour ceux qui n'ont pas vu les quatre premiers?
Alors, Rose Rivière est une jeune bonne, la bonne des gens saints, qui est jouée par Alice des gens saints est jouée par Camille Lou. Donc c'est sa bonne, c'est sa confidente, c'est son amie, c'est elle l'a quasiment élevée dans cette famille, elle fait tout. Et elle est mariée avec le cocher, Jean. Donc c'est vraiment une personne simple, nature, généreuse, serviable, ça, voilà, tout normal, quoi. Elle a juste un rêve caché d'émancipation, de changer de classe sociale avec son mari, de partir aux États-Unis et de pouvoir refaire leur vie sans être au service des autres.
C'est une belle aventure. Quand moi j'ai vu les deux premiers, je me suis dit, combien d'heures de maquillage le matin, Julie, là?
Alors, pour le premier épisode, c'était très rapide puisque j'étais au naturel.
Exactement.
Il y avait un petit moment de corsetage juste qui était difficile. Dans l'épisode 2, on comprend qu'elle est complètement abîmée, amochée, cramée, défigurée. Elle sera jamais plus comme avant, que Rose, une certaine Rose est morte dans cet incendie. En plus, on la croit morte. Et donc elle va devoir renaître de ses cendres. On sait pas du tout dans quel état elle est encore dans l'épisode 2. On la voit sous les bandages. Donc c'était 3 heures de préparation le matin, du gras, de la couleur, du silicone, des bandages. C'est vraiment une grande souffrance à jouer. Donc la souffrance de la préparation a aidé beaucoup.
Tu as eu connaissance avant de cette fiction, de ce fait divers, de cet incendie qui avait eu lieu là-bas? Ou est-ce que la première démarche, justement, ça a été de t'informer dès que tu as su que tu allais faire cette série?
Alors oui, oui, tout à fait. J'aimerais beaucoup dire que j'avais entendu parler de ce bazar, mais pas du tout. J'ai découvert ce fait historique incroyable qui a marqué énormément les Parisiens, beaucoup de générations et tout. Et donc après, en se renseignant, on voit qu'il y a des traces, des enregistrements de survivants. C'est incroyable ça, d'écouter des témoignages de personnes qui avaient 8 ans à l'époque, qui en ont parlé quand elles avaient 50 ans ou 80 ans, elles en parlaient dans la radio et tout. Hein. Donc ça a vraiment existé, des centaines de personnes qui ont cramé. C'est terrible, terrible, terrible ce qu'elles ont vécu.
Quand tu tournes les scènes, quand tu imagines tout ça, la souffrance, j'imagine que l'émotion ouais, doit des fois submerger un peu.
Ouais, oui, c'est ce qu'on s'était dit avec Camille, c'était que vraiment, bah, il y a des gens qui l'ont vraiment vécu, nous on le joue. Et ce que vraiment j'ai ressenti avec le feu, qui était vraiment très réaliste, c'est vraiment cette sensation d'être au cœur du feu, mais réellement, t'as vraiment l'impression que ça va cramer. Il n'y a plus de fiction dans ces moments-là. T'as tout qui prend feu, tout est ignifugé, mais t'as les rampes, tout, les draps, les rideaux, les moquettes, les trucs, les tables, tout prend feu, tout tombe, les poutres, pouf, et entre action et coupé, mais t'as la chaleur qui arrive en 10 secondes, ça brûle, et tu dis, mais vraiment, tu vis, tu ressens, tu vois ce que les gens voient quelques secondes avant de mourir.
Il y a une scène qui t'a marquée particulièrement.
En deuxième soirée, l'épisode 3, elle va voir dans quel état elle est, et elle va comprendre pourquoi elle est séquestrée chez cette femme, qui est jouée par Josiane Balasco. Elle lui propose de prendre l'identité de sa fille, Odette. C'est un deal complètement diabolique parce qu'elle veut pas perdre sa fortune avec son gendre qui est atroce, et elle veut que je devienne la maman de ce petit garçon que j'ai sauvé des flammes.
Il est dur, hein, le personnage de Josiane. La première scène entre vous deux où elle pense que tu es sa fille et que non, et qu'elle s'en va à la morgue et qu'elle la retrouve comme ça. C'est assez hallucinant, un personnage qui est hyper rigide et hyper dur.
Elle a une vraie blessure, elle vient de perdre sa fille et elle fait ça pour des raisons très fortes. Et il va y avoir un vrai affrontement toutes les deux, une vraie relation, beaucoup de coups bas, de manipulation, tout ça pour essayer de sortir de cette condition. Mais je vais devoir accepter, donc j'ai accepté le deal de Josiane parce que tout simplement, une bonne, donc la classe ouvrière, défigurée, handicapée et tout ça, ne vaut plus rien aux yeux de la société. Donc elle n'existe plus.
Et c'est ça qu'on va découvrir au fur et à mesure des 4 épisodes qui nous restent encore.
Il reste encore énormément d'intrigues et tout. Est-ce qu'elle va réussir à accepter ce deal machiavélique de Josiane? Par quelle souffrance elle va passer? Qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce que Jean va la retrouver? Est-ce qu'elle va retrouver son Jean? Mais ce serait dramatique. Est-ce qu'il va l'accepter, brûler telle qu'elle est, alors que c'était tellement un bel amour? C'est-à-dire que c'est vraiment un mariage d'amour, tu le sens. Et donc, est-ce qu'il ne l'aime pas brûler? Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, s'il y avait que le bazar de la charité, mais cette année, il y a aussi Peur sur le lac. La saison 3.
L'année prochaine.
Oui, en 2020, ça c'est projet, mais c'est tourné déjà.
Oui, tout à fait, c'est tourné.
Lisa Stoker va devoir faire face à un virus dévastateur à Aix.
Lisa Stoker is back.
Is back.
Et donc elle est de retour pour une saison totalement inattendue, un pitch complètement fou. Un challenge encore démoniaque de la part des producteurs de Jérôme Corniaux qui a inventé un truc dingo. Il y a un virus comme Ebola qui arrive, on ne sait pas pourquoi, comment. Et là, ça, en 48 heures, tu crèves.
On y retrouvera Lola Devers, Lanny Gautry, bien évidemment.
Il y a aussi, qui vient nous rejoindre, Sylvie Testu, Clotilde Courau, Anne Charrier, Bruno Debrandt.
Ça va.
On est super bien entourés. Je dis, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Comment je vais m'en sortir avec eux? Non, je rigole, je me suis éclatée et c'était... ouais, c'était génial de jouer avec ces gens-là, quoi.
On y reviendra de toute façon l'année prochaine. Tu viendras nous en parler, bien évidemment, comme d'habitude. Et le bazar de la charité. En attendant, on va découvrir le 5e et le 6e épisode. Cette semaine, on a hâte. Et Julie, on a hâte de te retrouver également dans Chute, on écoute la télé. À très vite.
À très vite, Alain. Merci.
Et on va se quitter avec un petit extrait.
Vous tuez une grotte mariée, ce sera un jeu d'enfant. N'oubliez pas que vous êtes déjà morte.
Lundi prochain, la suite du bazar de la charité.
Ah, Camille!
Où est ma femme, monsieur Chaville?
Vous la retrouverez jamais.
Soit vous vous débarrassez de votre enfant, soit il naîtra en prison.
Ne me touchez pas!
Je savais que tu partirais avec moi.
Je peux pas, tu le sais bien.
Toute ta vie, tu regretteras.
Il faut que j'innocente cet homme, tu comprends?
T'as envie de sortir, t'entends? Hein? Tu restes avec moi?
Je fais ce que je veux!
Allez, coup de cœur télé cette semaine avec Prise au piège, avec le grand début hein, sur M6 de cette mini-série en 6 épisodes avec pour héroïne Élodie Fontan qui est avec nous et je suis pas peu fière. Très heureux de te réaccueillir à nouveau dans notre émission, Élodie.
Merci, bah également, très heureuse, bonjour tout le monde.
Alors Élodie, là on va te voir dans un rôle mais alors complètement différent de ce qu'on a pu te voir avant. Tu vas être incarcérée, c'est une injustice terrible que tu vas vivre et c'est une plongée en même temps dans quelque chose assez méconnu à la télé ou même au cinéma, c'est l'univers carcéral féminin.
Oui, c'est ça, exactement. Effectivement, ce personnage, Anna Rivière, qui semble être une jeune femme sans histoire à première vue, va être effectivement accusée de meurtre et de détournement de fonds. Donc, elle va être envoyée en détention provisoire. Et effectivement, on va suivre sa descente aux enfers dans ce monde carcéral qui lui est complètement inconnu. Et en parallèle de ça, elle va du coup demander de l'aide à son père et son frère pour effectivement combattre cette injustice et réparer, prouver en tout cas son innocence qu'elle clame depuis le début, quoi.
Alors, première scène avec Jean-Hugues Anglade, on se dit quoi? Le mec qui a quand même fait braco, quoi, tu vois? La classe.
Ça claque, on est content. Non, super, moi j'étais super contente de tout le casting d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que je jouais avec Jean-Hugues, en plus il est hyper... quelqu'un d'hyper doux, d'hyper gentil, d'hyper... Du coup, faire les scènes de parloir avec lui, c'était génial. Avec Vincent Rothier, pareil, qui, je trouve, capte avec une certaine force la caméra. On le verra dans les prochains épisodes. Donc non, une chance folle de jouer avec tous ces acteurs, avec Manon Azem, pour qui j'ai eu un gros coup de cœur aussi. Avec,
voilà. On recevra la semaine prochaine, d'ailleurs.
Ah ouais, d'accord. Et non, il y avait une équipe... franco-belge, donc il y a beaucoup d'acteurs belges qui sont formidables dedans, qu'on va découvrir dedans. Donc non, je trouve qu'il y a un très joli casting. J'ai eu des partenaires de jeu en or, j'ai eu de la chance.
Qu'est-ce qui t'a séduit au premier abord quand t'as lu le scénario? Tu t'es dit quoi?
Alors déjà, c'est vrai que j'ai fait donc beaucoup de comédies ces derniers temps et j'avais envie d'aller vers quelque chose d'un peu différent et revenir au genre un peu dramatique que j'ai pu faire avant effectivement ces comédies au cinéma. Je trouve que c'est une chance dans notre métier de pouvoir avoir des personnages et des univers si différents. Et donc là, une série sur le milieu carcéral, c'est vrai que ça me séduisait déjà d'origine. Et effectivement, en lisant le scénario, j'ai trouvé que la série était très bien construite. J'ai adoré l'évolution de ce personnage, d'Anna Rivière, qui n'est pas juste une victime, qui va devoir s'en sortir vraiment dans la série et franchir une certaine ligne. J'ai trouvé, quand j'ai lu le scénario, qu'il y avait beaucoup de rebondissements et que j'avais pas envie de lâcher le scénario. Et ça, je trouve que c'est quand même une bonne chose. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de personnages, mais beaucoup de personnages très bien construits, qui avaient tous une évolution hyper intéressante. Donc non, moi, quand j'ai lu la série, j'ai pas eu tous les épisodes d'ailleurs d'un coup. C'était très frustrant. Je crois qu'il m'en manquait deux. En tout cas, j'ai eu très très envie d'incarner ce personnage.
Comment on fait justement pour décompresser un petit peu quand on tourne dans un univers assez clos comme ça, beaucoup de scènes, parce que la majorité de tes scènes se passent en prison. Donc comment on fait pour décompresser entre les scènes?
Bah, j'avoue qu'à la fin du tournage, moi, j'avais un peu envie de dire au réalisateur, viens, on fait des scènes où on se marre un peu, on fait des trucs drôles. Même quand j'avais envie de sourire, il me disait, non, là, t'es pas bien. Je disais, mais je suis pas bien pendant toute la série, j'en ai marre, j'ai envie de rigoler un peu. J'avais des scènes, des fois, où c'est d'émotion du matin au soir, de 8h du matin jusqu'à la fin du tournage. Je pense que ce qui joue vachement, c'est d'avoir une bonne équipe. Et là, c'est vrai qu'on avait de la chance et qu'on s'entendait tous très bien. Pas comme dans la série, tu vois, avec Manon et tout. Et du coup, bah, quand tu sors du tournage, vu que c'était à l'étranger, en plus, on dormait sur place, on est tous restés ensemble. Donc, tu sors, tu te fais un bon resto, tu te fais un billard, tu déconnes et voilà.
Ça a été tourné où?
Ça a été tourné, il y a une partie aux Pays-Bas, il y a une partie à Breda, où se trouve donc la prison, qui est d'ailleurs une prison complètement incroyable. Il y a une partie en Belgique, à Bruxelles, et il y a une partie à Sète, dans le sud de la France.
Ça va, c'est bien.
On a va de brouiller.
Ça a bien fini, voilà. Après le froid, la chaleur.
Non, il commençait par 7. Ah bah non, sinon c'est pas
d'accord, autrement c'était pas drôle, effectivement.
On était à Breda, donc il faisait un peu plus frais.
Bon, des projets pour le cinéma? Parce qu'on t'a vu beaucoup ces dernières années au cinéma. Je sais que notre ami Tarek écrit son nouveau film. Philippe Lachaud doit être plein de projets.
Écoute, des projets pour l'année prochaine, mais rien de concret pour le moment, donc j'en parlerai en temps voulu.
Et la suite, évidemment, est-ce que Nicky Larson reviendra? C'est la question que tout le monde se pose.
Écoute, on ne sait pas, on aimerait beaucoup. Nous, on est tous hyper partants parce qu'on a adoré ce film. Moi, j'ai adoré mon personnage. Donc, s'il y a une suite, évidemment, on serait plus que ravis. On attend patiemment.
En tout cas, vous pouvez vous procurer en DVD. Hein. Nicky Larson, c'est sorti en DVD, Le Parfum de Cupidon, le film à ne pas rater. Si vous ne l'avez pas vu au cinéma, il faut le rattraper, c'est maintenant. Voilà, il faut en profiter. Clem, la page est définitivement tournée. On a vu le personnage d'Elysée s'en aller. Là, c'est pareil, comment on vit ce départ? T'avais envie peut-être de tourner la page aussi après 9 saisons, hein, d'avoir joué Elysée, hein, quand même.
Non, bah, ça a été les années que j'ai passées dans cette série-là, ça a été formidable. Surtout que quand on passe effectivement 9 ans sur une série, ça devient un peu une famille, donc c'était un petit peu dur de la quitter. Mais je pense que j'avais fait le tour de mon personnage, j'avais pas envie de lasser le public et même moi j'avais pas envie de m'ennuyer avec ce personnage et je trouvais qu'au bout de 9 saisons il était temps que j'aille vers d'autres horizons donc on s'était mis d'accord, voilà, on était avec la production que j'allais m'arrêter à cette saison-là et je pense que c'était bien. Donc oui, sur le coup c'est pas évident de quitter une série sur laquelle on a bossé pendant tant d'années, mais il le fallait, voilà, c'était une bonne chose et tu vois ça m'a permis de faire prise au piège et de voir maintenant des choses un peu différentes quoi.
C'est parti pour 3 semaines. On va passer 3 semaines avec toi sur M6. Prise au piège 6 fois 52 minutes. On va découvrir les 2 premiers épisodes cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Elodie? Une belle année 2020, je pense.
Bah ouais, ce serait chouette. J'aime bien ce chiffre. Je pense que ça va être une chouette année, j'espère. J'espère que la série va plaire au public déjà pour commencer. Et si ça commence comme ça, ça devrait bien continuer.
Bah, on en est sûr aussi. À très bientôt. Merci, Elodie.
Merci, au revoir.
Une création exclusive M6.
C'est notre anniversaire.
Elle est belle.
Police.
Martin Monnier a été retrouvé une balle en plein cœur ce matin. Il vient de découvrir qu'un million d'euros a disparu des comptes de votre entreprise.
Putain, c'est un cauchemar.
Détournement de fonds, meurtre d'un témoin gênant. Vous risquez 20 ans, madame.
Ils t'ont dit quoi quand tu leur as dit qu'on était ensemble ce soir-là?
Ma femme. Si je parle aux flics, ils apprendront pour nous. Je peux pas lui faire ça.
T'es innocente. Ils peuvent pas te garder.
Papa, il m'a piégé. Ce qu'il faut, c'est trouver des preuves contre lui.
Que t'étais innocente. C'est pour ça que t'es en danger.
Prise au piège, mercredi 4 décembre sur M6.
Allez, on continue à parler d'Irresponsable. La série revient, hein, je vous l'ai dit, pour une saison 3. Ça sera jeudi sur OCS à 20h40. Eh bien, on a la chance d'avoir une partie du casting avec nous aujourd'hui aussi. C'est Nathalie Cerda qui est avec nous. Bonjour Nathalie.
Eh bien, bonjour.
Je joue le rôle de Sylvie, la maman de Julien. Nous avons également Alison Chassagne qui est avec nous. Bonjour Alison.
Bonjour.
Qui joue Julie, nouveau personnage dans cette saison.
Voilà, elle arrive à l'épisode 2.
Exactement. Et Sébastien Chassagne qui est avec nous, alors notre trentenaire, notre adolescent, je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais nous on l'adore en tout cas depuis 2 saisons, et il n'a pas fini de nous faire encore, de nous vendre du rêve en saison 3.
Ouais, exactement, bonjour, merci.
Comment on réagit, Sébastien, quand on sait que c'est la dernière saison qu'on tourne et qu'on va tourner la page de Julien?
Eh ben, on craque beaucoup. Moi, j'ai beaucoup pleuré pendant pendant ce tournage. Donc, moi, j'étais très, très à fleur de peau. Donc, c'est quelque chose de très, 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 très particulier. C'est des très beaux souvenirs. Moi, ça me rend très, très nostalgique de tout ce qu'on a fait. Et ça rendait nostalgique des deux saisons passées. Et je l'ai appréhendé avec beaucoup de mélancolie. On n'a pas arrêté de pleurer, en vrai, tout le temps.
Nathalie?
Oui, je confirme. Hein, c'est difficile de. On s'attache à nos personnages, on s'attache aux personnages des autres comédiens, on s'attache aux comédiens eux-mêmes, à toute une équipe qui a vraiment travaillé ensemble pendant 3 ans. Donc c'est toujours difficile de quitter des personnages aussi forts et aussi tendres. Donc effectivement, on a beaucoup pleuré, on a séché nos larmes et puis on a beaucoup ri aussi. Ce qui est un peu la vie et aussi c'est la particularité de cette série, c'est d'être tellement vraie, tellement vivante, tellement humaine.
Alison, toi t'arrives au milieu de cette équipe installée depuis 2 saisons, alors toi t'es très active sur YouTube, je crois, hein, je crois qu'on peut le dire, c'est même plus que très active, et qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de rejoindre cette équipe d'irresponsables pour le coup?
Déjà la chance qu'on me propose de faire partie de cette équipe, mais moi j'étais fan des 2 premières saisons, donc c'est vraiment quelque chose qui se reproduira peut-être pas un jour, c'est de participer à une aventure qu'on adore, donc j'étais très émue aussi, très contente, c'était très intense émotionnellement, très triste aussi que ça se termine, même si c'était ma première et dernière saison avec eux, donc j'étais ravie.
Sébastien, on va parler de Julien évidemment, qui va devoir faire face dans cette 3e saison à l'émancipation un petit peu de Jacques, son fils qu'on a découvert il y a 3 ans, son fils caché qui avait 15 ans, qui maintenant en a 18 et qui veut quitter le nid. Et ça passe mal, là la pilule a du mal à passer.
Ouais, c'est une saison pour Julien où il est vraiment tiraillé entre son futur et son passé qu'il rattrape sans trop en dévoiler évidemment d'un seul coup, et je crois que c'est très difficile pour lui de se dire qu'il faut plus être immobiliste, et c'est son fils qui lui donne l'exemple d'une certaine manière de bouger, mais pas bouger que physiquement, bouger aussi un peu dans sa tête.
Alison, dans quel contexte va intervenir le personnage de Julie pour cette saison en arrivant à l'épisode 2?
C'est leur nouvelle voisine. En fait, elle a un point commun en tout cas avec le personnage de Nathalie, le personnage de Sylvie, c'est qu'elle va faire un enfant toute seule. Voilà. Et donc je pense qu'elle va essayer de trouver du réconfort pour traverser cette épreuve plus sereinement. Et c'est quelqu'un de très courageux, je trouve. J'étais très attachée à ce personnage parce que elle traverse les épreuves courageusement. Et au début, on a l'impression qu'elle est un petit peu à côté de la plaque, mais en fait, pas du tout.
Oui, Sylvie, cette maman, évidemment, ou que Julien ne quitte pas le nid non plus. Cette saison 3, que va-t-il en advenir pour Sylvie?
Pour Sylvie, cette saison 3, c'est un peu un déchirement. Dès le départ, c'est un peu compliqué, la situation compliquée. Ils vivent maintenant ensemble. Hein, on avait fini la saison 2 avec l'appartement qui brûle et donc qui se retrouve à la rue. Et donc, ils emménagent ensemble. Et faire un ménage à 4, ça devient très compliqué. Donc Sylvie, elle est fragilisée dans cette saison un peu, elle est beaucoup plus fragile, elle se sent...
En accueillant toute la famille chez elle?
Ben, chez elle ou chez eux, c'est presque chez eux, parce qu'elle est, elle gêne évidemment, hein, et comme elle est pas très fine, ni très psychologue, elle rentre dans les chambres, enfin elle fait pas attention, quoi. Elle est toujours un peu dans les vapes. Sylvie, dans cette saison-là, va avoir à se confronter à elle-même, tout d'un coup.
Alors une autre aventure, Sébastien, qui t'attend, puisque maintenant que la page irresponsable va être tournée, c'est une belle histoire qui va nous attendre sur France 2 aussi. J'ai eu la chance de voir les 2 premiers épisodes et j'ai trouvé justement une très très belle histoire qu'on va pouvoir voir 8 fois 52 minutes où tu partages l'affiche avec notamment Tiffaine Davio et Thierry Neuvik. Là c'est encore autre chose.
Oui, c'est un autre personnage qui est un peu plus mature, qui lui doit faire face à un deuil. Du coup, c'est pas du tout la même chose en termes d'enjeu. C'est comment il va se reconstruire après son deuil et comment il va réinventer ses émotions, ses affects, etc. Et c'est une série qui est beaucoup plus chorale que Irresponsable dès le début, parce que moi j'avais quand même beaucoup de trucs sur la première saison et c'est devenu chorale, je trouve, par la suite, Irresponsable sur les saisons 2 et 3. Et ouais, donc il y a, pardon, je reparle d'Irresponsable du coup. Mais oui, donc ça, je sais pas exactement quand ça sort, je pense dans pas très longtemps. Mais on était très heureux de la projection en tout cas, parce qu'on avait très très peur de ce qui allait se passer, puisque c'est une série qui tente des trucs, essaye d'être un peu nouvelle sur cette case horaire, aussi bien esthétiquement que dans le jeu, dans l'écriture, etc. Tout en étant une comédie romantique, donc un genre qu'on connaît assez bien du côté anglo-saxon, peut-être un peu moins du côté français. Et on a eu un super accueil. Et rien que pour ça, moi j'étais très 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 heureux de ça. Et
on le découvrira bientôt sur France 2, en tout cas. Je vous remercie à tous les trois d'être venus.
Bah merci à toi.
Merci beaucoup.
Merci, merci.
Et n'oubliez pas que jeudi, eh bien, on retrouve évidemment notre irresponsable sur OCS. Vous pouvez voir l'intégralité de la saison en replay sur OCS dès la diffusion des premiers épisodes. Si vous n'avez pas envie d'attendre, eh bien voilà, dévorez-la, faites comme nous et dévorez les 10 premiers épisodes, enfin les 10 épisodes, hein, en tout cas finale de cette aventure incroyable. Merci à tous les trois.
Merci.
Je voudrais voyager. En fait, je veux partir au Chili. Je veux pas aller à la fac, j'ai vraiment besoin de réfléchir à ce que je veux faire dans la vie.
T'as 18 ans à peine, moi je te connais que depuis 3 ans, bordel.
Moi je pars vivre ma vie, puis toi, bah, tu vis la tienne, mon gars.
Pourquoi j'ai accepté ce boulot?
Allez, client suivant, on se dépêche.
Dites, c'est bon ça?
Ah ouais, on sait rien du tout. Hein.
Aïe! Oh.
Je suis ta sœur, ta demi-sœur.
Quoi? Elle a débarqué ce matin.
Oh putain, pardon. Oh, un fils. Oh, une sœur. Oh, un petit four.
Dans ma vie, tout part en couille en ce moment. Je suis désolé, depuis que mon fils a annoncé son départ, dire que ma vie de père est derrière moi.
Pourquoi tu voudrais pas d'un autre enfant?
Pourquoi j'en voudrais forcément? On n'a pas l'air con.
Ah putain.
Alors, il est où le loser paumé?
Maëva Cook et Mathieu Sampéré sont les deux derniers invités de cette émission. Alors surtout, vous ne bougez pas, on revient dans un instant. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite.
Radio familiale et conviviale.
Style FM donne la priorité au local.
Les fenêtres sont closes. Est-ce qu'il fait beau dehors? Il y aurait tant de choses à faire, mais nous on se rendort. Tourne le monde autour. Peu importe, on ne laisse qu'un peu de jour se glisser sous la porte. Si c'était juste un rêve, pourquoi est-ce qu'il défile en boucle dans ma tête? J'ai le goût de tes lèvres, ce flou indélébile qui reste. Rappelle-moi si je t'aime. Rappelle-moi ton nom déjà. Rappelle-moi.
seule envie, vous faire du bien.
Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Allez, on va parler musique aujourd'hui avec un de nos invités, c'est Mathieu Sampéré, membre des Stentors, qui nous rejoint à l'occasion de la sortie de cet album solo, Engrenage Symphonique. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, ça me fait plaisir de te recevoir après une belle tournée l'année dernière que l'on a fait ensemble dans toute la région Nouvelle-Aquitaine. Et bien te voilà de retour avec un album solo, Engrenage Symphonique. Alors raconte-nous qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre dans cet album.
Alors cet album est un album personnel d'une part, c'est donc un album en parallèle de la carrière on va dire des Stentors, en parallèle des copains et des concerts que nous faisons. Depuis 2011 je travaille sur cet album là, même si j'en ai sorti depuis un hommage à Luis Mariano en solo, un album avec le Vatican, avec les chœurs du Vatican, un album sur la chanson française, Piaf, Brel, Beco, Reggiani, Patachou, Colette Renard, Traîné, etc., etc., Nougaro, donc les grands interprètes qui ont bercé mon enfance. Cette fois sur cet album là on peut trouver 5 reprises, mais il y a surtout de la création. Donc c'est un album que j'ai écrit, c'est un album qui me ressemble le plus, c'est l'album qui réunit mes deux mondes de prédilection musicale. C'est donc le classique, la musique classique et la chanson, la pop, la variété et la chanson française. Alors je m'explique bien évidemment, c'est-à-dire que sur des thèmes de musique classique, j'ai écrit, coécrit ou fait écrire des paroles pour en créer des chansons. Une symphonie qui fait par exemple, puisque ça s'appelle Engrenage Symphonique, donc une symphonie qui fait par exemple 40, 45 minutes, voire plus, j'ai récupéré 20 secondes, un thème, et j'en ai fait un refrain d'une chanson. Voilà le concept de cet album.
Alors en parallèle, les Stentors continuent aussi, bien sûr.
En parallèle, les Stentors continuent. Alors, pas d'album pour l'instant, on a sorti un album il y a un an, donc on tourne avec cet album-là, on tourne avec des concerts de Noël, puisque nous avions sorti aussi un album de Noël il y a 2 ans, donc nous avons une belle tournée de Noël, nous revenons dans pas mal de régions de France, on fait une tournée en France, dont en Aquitaine où on s'était rencontrés l'an dernier, donc voilà, nous tournons avec nos spectacles, je pense que c'est l'essentiel, nous sommes des chanteurs de scène, et nous sommes ravis de nous retrouver tous les trois, voilà, de faire des choses en solo, de chanter de l'opéra, moi de faire un album en solo, et puis de se retrouver avec les copains.
Alors comment t'as choisi les thèmes de tes engrenages symphoniques justement ? Parce qu'il y a tellement de choix dans la musique symphonique, dans la musique classique, que voilà, en choisir 5, ça n'a pas dû être facile.
Alors, les 5 sont des reprises. Alors, les reprises que j'ai faites, c'est des titres que j'appréciais énormément ou que j'avais joué moi-même au piano. Par exemple, j'ai repris Aranjuez, donc de Richard Anthony, Aranjuez mon amour. J'ai repris également Paix à son âme, Morane, donc ce qu'elle a magnifiquement interprété. Le prélude de Bach, sur un prélude de Bach, écrit par Jean-Claude Vanier, qui est un ami. Voilà, j'ai repris une chanson qui a été une chanson, qui n'est pas véritablement une chanson, qui est un air lyrique, qui s'appelle La danse macabre de Saint-Saëns, sur lequel un parolier avait mis des paroles. Donc voilà, j'ai fait des reprises, et sur le reste des titres, je suis allé chercher des morceaux qui me touchaient, je suis allé chercher des extraits, par exemple, de Beethoven, de la 7e de Beethoven, je suis allé chercher la gymnopédie d'Eric Satie, je suis allé fouiller un petit peu, j'ai récupéré le concerto d'Albéniz que je joue au piano mais qui a été écrit pour guitare à la base, sur lequel j'ai demandé donc à Enrique Andreu d'écrire un texte, et puis des choses beaucoup plus modernes et contemporaines dans les textes, y compris dans les arrangements. C'est-à-dire que dans ces arrangements on peut trouver à la fois des instruments organiques, donc un vrai violon, un vrai violoncelle, un vrai piano, des vraies batteries, et puis également des instruments électroniques. Donc certains morceaux sont assez novateurs, assez nouveaux, et c'est pour ça que ça demande du temps de créer une nouvelle orchestration, de créer une nouvelle direction musicale, une direction musicale qui me convient, qui me correspond.
On écoute un extrait, lequel tu as envie là maintenant ?
Alors, on va commencer si tu veux par Engrenage Symphonique, qui est totalement moderne, qui parle de moi sur mon balcon par exemple. C'est l'histoire d'un auteur ou d'un compositeur qui est en manque d'inspiration. C'est le matin, il a encore les yeux tout collés, et donc il sort sa table parce qu'il fait beau, c'est l'été, sur le balcon, il trace des lignes, il trace des portes, une portée, il va se faire son café, pendant qu'il se fait son café, un coup de tonnerre, l'orage, et là la pluie qui écrit, voilà, et qui inscrit une symphonie sur le papier. Donc ça, il est ravi, il voit cette symphonie s'écrire toute seule, mais sauf que la pluie s'efface, l'eau s'efface, et au bout de quelques minutes, la feuille sèche et la symphonie s'est effacée.
On l'écoute.
Toujours en fuite, jamais en place, tel un nuage. Sur la feuille vide, je trace un guide à sa portée. La pluie dessine entre les les lignes, tel un mirage. Et c'est la symphonie, telle une amie qui bat son plein.
Donc ce morceau, tu l'as écrit?
Tout à fait. Alors là, Damien Badet a écrit, donc c'est mon arrangeur, a écrit la musique. Et puis moi, j'ai écrit les paroles, voilà, sur celui-ci. J'alterne, des fois c'est la musique, des fois c'est les paroles.
Il y a quelques hommages aussi dans cet album quand même. On le disait donc à Morane, à Richard Anthony. Il y a aussi des hommages à des artistes que tu aimes particulièrement.
Oui, alors il y a un hommage à Dev, par exemple. Enfin, quand on dit hommage, il y a un titre que Dev a chanté, La Décision, écrit par Guy Matteoni, et tiré du Septuor de Brahms. Donc voilà, c'est toujours des inspirations classiques. Alors ça peut être sur ces 14 titres parce que j'ai collé quelques notes de Jean-Sébastien Bach, comme dans le premier Engrenage symphonique où on peut retrouver Toccata et Fugue de Bach, padadam, padadadadam, le morceau d'orgue, juste ces quelques notes là que j'ai voulu faire intervenir comme un coup de tonnerre. C'est l'orage qui dessine, qui éclate. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Et puis il y a des morceaux où j'ai écouté un morceau classique avant, je m'en suis inspiré, comme le dernier qui s'appelle Leur Héritage, qui est un morceau que j'ai chanté avec des enfants, avec une chorale Cap-Cœur d'Argenteuil, qui parle de ce qu'on va laisser à notre planète, l'état de la planète actuelle, leur héritage. C'est un peu un cri aux dirigeants, un cri aux adultes, et un cri à moi-même et voilà, à nous, tiens à toi. et voilà, pour dire que la planète, il faudrait qu'on fasse vraiment très attention. Ça, on le sait, c'est des banalités, mais attention, quand on voit cette belle mer complètement polluée, tous ces océans, et ce qu'on est en train de faire est de tuer les abeilles. Et dans la chanson, on se demande si dans quelques années on verra encore des papillons. Et voilà, c'est un questionnement, ça parle d'écologie, mais il y a plusieurs thèmes que j'ai voulu aborder dans cet album.
Alors cet album, est-ce que tu vas le défendre un petit peu sur scène? Est-ce qu'il y a une petite tournée de prévue? Comment ça va se passer?
Alors cet album va partir en concert à partir de 2020. Avant, j'ai des concerts sur l'ancien album, tant de chansons qui nous ressemblent, mais j'ai appelé le spectacle Tout en chansons. Donc avec de la chanson française avant tout, mais chansons italiennes, chansons espagnoles. Et je vais inclure déjà quelques morceaux de cet engrenage symphonique, de ce nouvel album, dans mon spectacle jusqu'à 2020, pour avoir une nouvelle création et un spectacle beaucoup plus moderne en 2020 avec des multi-instrumentistes, parce que l'album est très moderne.
Alors les Stentors te rejoindront aussi pour quelques concerts pour Noël à nouveau?
Bien sûr, on va faire une tournée en France. On va essayer de passer dans presque toutes les régions. Alors, il y a des choix à faire. Je sais que toi, ta région de prédilection, c'est le sud.
C'est la Nouvelle-Aquitaine.
Nous y serons. A priori, on va passer à Libourne et puis juste à côté de Bordeaux. Donc, on aura au moins deux concerts de Noël avec les Stentors dans la dernière semaine, dans la semaine avant Noël. On va dire, je crois que c'est du 16 au 23. En début de semaine, on sera avec les Stentors. Et puis, on va comme ça partir du côté de Tours, du côté de Vierzon. Voilà. Et puis, on va faire des beaux concerts de Noël dans des lieux magiques.
Des voix exceptionnelles, des albums en pagaille, dont un nouveau pour cette rentrée, c'est l'Engrenage symphonique de Mathieu Sempere. On s'écoute un deuxième extrait avant de se quitter?
Eh bien, bien volontiers. Alors, comme c'est un engrenage symphonique, chaque morceau est complètement différent du précédent. On a des univers différents. Alors, ça dépend véritablement de ce que tu veux entendre. Et puis, donc le premier, tu l'as entendu, Les Chevaux d'Andalousie, c'est un morceau très tonique sur mes origines, donc qui sont l'Espagne, à 2-3 générations, après des chansons d'amour. Dis-moi ce que tu veux entendre et je te trouverai ton morceau.
On pourrait faire un petit hommage à Morane?
Alors un petit hommage à Morane avec le prélude de Bach.
Allez, on l'écoute tout de suite. Mathieu Sempere, qui était notre invité dans Chut, on écoute la télé aujourd'hui. Merci Mathieu, on te dit à très très bientôt. Bien évidemment, la porte est ouverte, tu le sais, quand tu veux dans l'émission.
Merci à toi, merci à vous.
Lorsque j'entends ce prélude de Bach, par Glenn Gould, ma raison s'envole. Et toutes ces amours qui se détraquent, et les chagrins lourds, les peines qu'on bricole, et toutes mes erreurs de zodiaque, et mes sautes de boussole, toi, les pieds dans les flaques, moi, et ma tête à claque. J'ai pris les remorques pour des gondoles, moi je traîne ma casserole.
Et pour retrouver les Stentors en concert près de chez vous, rendez-vous le 17 décembre à l'église de Libourne, le 18 décembre à l'église de Saint-Médard-en-Jal. Et vous retrouverez les Stentors un tour en France le 15 mars au Bocapol de Bressuire. Et on va passer tout de suite à la suite de notre émission, puisqu'elle va s'envoler pour Miss Univers qui aura lieu samedi. Ça sera donc aux États-Unis à Atlanta que cela se passera, et on la reçoit avec nous en exclusivité. C'est Maëva Cook qui est notre invitée. Bonjour Maëva.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Maëva, alors depuis un an, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et quel retour tu ferais sur cette année maintenant hors Miss France?
Eh bien, ça m'a apporté énormément de choses. J'ai grandi, je suis devenue, je pense, plus mature. Et ça a totalement changé ma vie. C'est vrai qu'on le dit beaucoup, mais c'est vrai parce que... on devient un personnage public et même après la remise de notre titre, c'est pas pour autant qu'on n'est plus Miss France en fait. Je resterai Miss France 2018 et comme vous pouvez le voir, je remets de temps en temps mon écharpe et je continue d'apparaître en tant que Miss France 2018. Donc voilà, beaucoup de choses se sont passées, des très belles choses. Je collabore avec beaucoup de marques. On va dire que c'est mon travail maintenant aujourd'hui. Et puis effectivement, maintenant j'ai un nouveau défi, celui d'aller chercher la couronne de Miss Univers. C'est pas rien parce que c'est une grande élection, un nouveau challenge. Je vais essayer de faire aussi bien qu'Iris. J'ai la chance maintenant de pouvoir bénéficier de ses conseils. Donc je ferai du mieux pour que la France ait encore une fois ce titre.
Alors tu vas partir justement d'ici quelques jours pour Miss Univers. Là, c'est une sacrée aventure. Tu as préféré te laisser le temps justement après Iris de participer à cette élection mondiale. Pourquoi? Tu avais envie de laisser passer un peu les choses et de te consacrer pleinement et d'accompagner en même temps celle qui allait prendre ta suite à Miss France.
Alors, avant la remise de mon titre l'année dernière, j'ai participé à Miss Monde. Donc j'avais déjà fait le choix de choisir Miss Monde à Miss Univers pour beaucoup de raisons. Maintenant, je pense que ça tombe bien en fait, les choses se déroulent bien et il y a une belle suite après Miss Monde de pouvoir faire Miss Univers. Et puis il faut savoir que ça sera pas du tout la même préparation quand on est en titre que quand on l'a déjà rendu, puisque je suis beaucoup plus disponible, j'ai beaucoup plus de temps, je manque moins de sommeil, hein, faut clairement dire les choses, parce que quand on est en titre on ne dort vraiment pas beaucoup. Donc là j'ai le temps de pouvoir travailler avec les marques encore une fois, choisir les tenues que je porterai là-bas, le costume national, et puis à côté de ça, suivre ma préparation physique, les cours d'anglais. Donc je suis beaucoup plus libre pour le faire et c'est beaucoup plus plaisant aussi de me préparer à 100% pour ça au jour d'aujourd'hui.
Maintenant que tu as fait Miss Monde, ça t'impressionne plus Miss Univers? Quelle est la différence un peu entre les deux pour les gens qui ne savent pas en fait quelle peut être la différence entre Miss Monde et Miss Univers?
Alors c'est deux élections totalement différentes. Miss Univers c'est très américain, ça appartenait à Trump, maintenant ça appartient à IMG qui est une grosse agence mondiale. Et puis Miss Monde ça appartient à une petite famille qui vit sur Londres, donc les deux n'attendent pas la même chose des candidates qui se présentent à eux tous les ans. Miss Univers c'est vraiment un body, donc on veut une fille qui a vraiment un corps, on va dire presque irréprochable, tout en ayant bien sûr une cause qu'elle défend, parce que ça reste tout de même important. Mais Miss Monde, ils sont vraiment axés sur ça, sur l'associatif, sur la cause que défend la fille, puisqu'on doit présenter un beauty with a purpose. Et le mien était la lutte contre le cancer du sein, puisque c'est toujours la cause que je défends depuis mes premières élections de Miss et que je continuerai de défendre au mieux, puisque ma mère en a eu un. Donc voilà, les deux n'attendent vraiment pas la même chose de leur Miss. Et je pense qu'aujourd'hui, Miss Univers peut plus me correspondre déjà dans ma façon d'être. Donc voilà, je pense que j'ai mes chances, comme toutes les autres candidates, et j'espère aller le plus loin possible.
Nous, on croise les doigts pour toi. On s'est pas vu depuis l'élection de Miss France l'année dernière. Alors, la première chose, j'avais aussi envie de te demander, quels sont les premiers conseils que t'as donné à Vaïma Lama, qui a été élue après toi?
Alors, je lui ai tout de suite donné mon numéro de téléphone. Je lui ai dit, quand t'as besoin, t'as des questions, peu importe, tu m'appelles. Et les premiers conseils, c'est de profiter au maximum, parce que c'est un an. Et un an, ça passe très vite.
Merci à toi. On croise les doigts, évidemment, pour Miss Univers. Merci à toi.
Merci beaucoup.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, nous aurons le plaisir de vous consacrer justement une émission spéciale Miss France avec Vaïma Lama Chavez qui sera notre invitée, accompagnée de nos trois Miss régionales, Andrea Galland, Miss Poitou-Charentes. Et nous aurons également le plaisir de recevoir Alison Salapic, Miss Limousin, et Justine Delmas, Miss Aquitaine. Nous consacrerons également une partie de notre émission au film Docteur avec le réalisateur et le comédien principal qui seront avec nous. Et puis exclusivité à l'occasion de ces passages en concert dans nos églises en région, c'est Laurent Voulzy qui sera notre invité. Alors, vous avez vu, on va pas s'ennuyer encore une fois lundi prochain.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
Sans oublier vos applications sur Android et iPhone, Chute, on écoute la télé. Moi, je vous retrouve dès demain à 13h45 pour vos quotidiennes sur Style FM. Et puis, bien sûr, la grande hebdo de Chute, on écoute la télé, c'est lundi prochain dès 17h. En attendant, je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes et je vous dis à demain.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente dans la Vienne sur mariemorin.fr.
Chute, on écoute la télé avec L'Angélis, votre maître artisan glacier régional, élu saveur de l'année 2018. Vos points de vente dans la Vienne sur l'angélis.com.